Mercredi 21 avril 2021, 17h à Niamey, c'est l'heure du journal en français du studio Kalangou dans une présentation de Rafika Taher. À la une ce soir, la mort du président tchadien Idriss Déby hier aura des conséquences sécuritaires dans le Sahel, estime Ibrahim Yahaya de l'International Crisis Group. Des détails dans un instant. Le Niger, classé 59e sur 130 pays classés par Reporters sans frontières, il perd ainsi 2 points par rapport à l'année dernière. À suivre les raisons dans ce journal. Et enfin, à suivre dans la partie magazine ce soir, les enjeux de la disparition de Idriss Déby pour la région du Sahel sur le plan sécuritaire. La mort du président tchadien Idriss Déby va porter un coup à l'engagement de Tchad sur les théâtres des opérations de la sous-région. Il s'agit de la lutte contre Boko Haram dans le lit du lac Tchad et les djihadistes de la zone des trois frontières Mali, Niger et Burkina Faso. C'est ce qu'estime Ibrahim Yahaya, chercheur de l'International Crisis Group interrogé par Alassane Abdou.
Du point de vue sécuritaire, la mort d'Idriss Déby, il est clair que c'est une très mauvaise nouvelle pour la région du Sahel. Pour le Niger en particulier, quand même le Tchad est reconnu comme l'un des maillons les plus forts de la sous-région. Non seulement son armée contribue à stopper la poussée de Boko Haram dans la région du lac Tchad, mais aussi cette même armée qui est reconnue très aguerrie participe dans beaucoup de théâtres de combat pour la stabilisation du Sahel. Et c'est notamment le cas au nord du Mali, mais aussi récemment dans la région du Letako-Gourma, au niveau des trois frontières.
Le village de Gueygourou, région de Tillabéri, se vide progressivement de sa population. Ces départs font suite à l'attaque du village par des hommes armés non identifiés samedi dernier qui a causé la mort de 19 personnes. Selon un habitant joint au téléphone ce matin par le studio Kalangou, plus de la moitié de la population de Gueygourou a fui pour d'autres destinations. Voici des propos recueillis par Nafisa Adamou Serfo.
Vraiment, la majorité des habitants du village a quitté. Même ce matin, il y a des gens qui partent soit à Famalé, soit à Dessa, voire Niamey ou à Tillabéri parce qu'ils ont peur. Ceux qui ont quitté le village sont même plus nombreux que ceux qui y restent. Mais il y a quand même des gens comme moi qui ont préféré rester au péril de leur vie. Les forces de l'ordre, même hier, au coucher du soleil, ont traversé le village, mais ils ne restent pas dans le village. S'ils étaient positionnés à l'ouest, à l'est ou au nord de ce village, nous serions plus tranquilles. Aussi, nous appelons les autorités à s'intéresser plus à notre sécurité. Car si nous constatons la présence des forces de l'ordre à nos côtés, nous aurions l'esprit tranquille. Mais si nous ne les voyons pas, nous vivrons toujours dans la peur.
Le projet européen multinational qui finance le groupe d'action rapide surveillance et intervention au Sahel est arrivé à terme. Selon le haut commandant de la gendarmerie, ce projet a significativement contribué à renforcer leur unité. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce matin à l'école de la gendarmerie nationale de Niamey. Le général de brigade Salifou Wakasso, dans des propos recueillis par Mokhtar Hamadou.
Le projet a eu un impact réel et concret sur la gendarmerie nationale qui se l'est appropriée à travers des actions concrètes telles que la prise en charge de certains coûts lors des sessions de formation qui se sont succédées au sein de l'école de la gendarmerie nationale, mais aussi la construction des casernes qui doivent accueillir les membres de ces unités d'élite dans leur zone de déploiement. J'ai pu personnellement apprécier le travail qui a été réalisé pour mettre en place ces unités à travers vers les résultats auxquels est parvenue la première compagnie qui a été déployée à Abala. Fort de cette expérience réussie, nos partenaires européens ont accepté notre requête pour la mise en place d'une deuxième compagnie dont la formation vient de prendre fin et qui sera basée à Tamou dans le département de Sahel.
Le rapport annuel sur l'état de la liberté de presse dans le monde a été publié lundi par Reporters sans frontières. Il ressort de celui-ci que le Niger a perdu 2 places et se classe 59e cette année sur 130 pays classés. Arnaud Froger, responsable Afrique à RSF, donne les raisons du recul du Niger. Il est interrogé par Tarnal Foudé Ahmed.
C'est un recul pour le Niger de 2 places qui s'explique notamment par des attaques répétées que l'on a constatées notamment notamment à l'encontre du journalisme d'investigation. On pourrait citer aussi le cas de la blogueuse Samira Sabou qui a passé plusieurs semaines en détention pour des faits de diffamation. On peut citer aussi cette nouvelle loi très controversée sur la cybercriminalité qui date de 2 ans maintenant et qui prévoit des peines allant de 6 mois à 3 ans de prison pour des faits de diffamation et qui ne prévoit pas d'exception journalistique, c'est-à-dire que les garanties dont bénéficient les journalistes sur les médias traditionnels, entre guillemets, ne s'appliquent plus pour les journalistes en ligne. Un accès à la publicité qui reste difficile pour les médias, et puis des médias publics qui sont encore plus des médias d'État qui peinent à s'affranchir de leur tutelle pour offrir une véritable information de service public. Voilà ce qui empêche, entre autres, le Niger de continuer à progresser au classement comme il était parvenu à le faire au cours des années précédentes.
Des blogueurs nigériens se sont réunis hier à la Maison de la Presse de Niamey pour valider une charte de bonne conduite des médias sociaux. C'est une initiative d'association de blogueurs et de l'APAC Niger, l'association des professionnels de la communication en Afrique. Samira Sabou, présidente du consortium, explique au micro d'Olivier Assokbavi.
Beaucoup de citoyens aujourd'hui se considèrent comme des journalistes à travers les publications qu'ils font et ils ne se rendent pas compte de certains dangers qui les guettent. Le journaliste, lui, il a eu une formation en éthique et en déontologie qui lui permet de connaître ses limites. Mais le citoyen aujourd'hui qui se considère comme un journaliste à travers ses publications n'a pas de béaba en matière de publication. Donc, pour le protéger, il était pour nous nécessaire de créer cette charte pour leur montrer voilà où sont vos limites. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État a plus à gagner en matière de classement, en matière d'image au niveau international. L'État a plus à gagner en s'alignant vers la formation que vers la répression.
Dans les environs de 15h30 hier, un incendie s'est déclaré à l'école Kouado 1 et 5 au quartier Talagé à Niamey. Selon la directrice de l'une des écoles, 9 classes en paillotes ont été calcinées, mais aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les cours ont repris ce matin dans les écoles après quelques réaménagements, explique Mme Harouna Rakiatou Daouda au micro de Salamatou Kadri.
C'était vers 15h30, les enfants étaient juste dans la classe. On commençait à ramasser, après le ramassage, on a constaté les élèves qui sortaient d'une classe en courant. On a entendu les enfants disaient « Dengue ». Et de là, on a constaté que déjà, la paillote a pris feu. Aussitôt, ça a donné à l'autre bloc de 7 paillotes. Et l'incendie s'est propagé. Ça a ravagé toutes les 9 classes. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine ni blessée. Parce que les parents d'élèves, les riverains, ils ont apporté beaucoup de secours. On les remercie vraiment beaucoup. Les cours n'ont pas été suspendus, sauf pour les élèves qui ont des paillotes calcinées. Nous avons jumelé leur classe dans une autre classe. Par exemple, moi, j'ai 4 classes calcinées. J'ai jumelé les deux CE2. Les 3 CE1, je les ai dit d'attendre. Le CP se retrouve dans notre CP en attendant de voir la solution.
Après une journée de jeûne et quand arrive le coucher du soleil, le pratiquant doit adopter une certaine habitude avant de rompre le jeûne. Les détails avec le prédicateur Oustaz Haladou Yahaya, joint au téléphone par Hawa Ousmane.
La rupture, ça fait partie des actes d'adoration. Or, tout acte d'adoration a besoin de recueillement. Tant que c'est possible, il faut s'organiser. On peut, après avoir même fait ses ablutions, on peut accomplir deux rak'ahs pour confirmer ses ablutions, lire le Coran ou faire d'autres, chercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, réciter les formules des noms et attributs de Dieu. Ça nous permet donc de rompre dans la concentration, mais surtout de pouvoir invoquer. Parce que effectivement, au moment de la rupture du jeûne, c'est un moment où les invocations sont exaucées.
Aussi, pour rompre son jeûne, le nutritionniste conseille aux jeûneurs de privilégier les aliments riches en eau. Cela permet à l'organisme de se réhydrater, explique le pharmacien nutritionniste Dr Harakoy Mohamed. Des propos recueillis par Rahila Toussoumana.
Les aliments à privilégier lors de la rupture du jeûne du Ramadan sont surtout plus les aliments riches en eau. Les aliments liquides comme l'eau, les tisanes à base de quinqueliba, menthe, citronnelle, basilic, les soupes de légumes, mais aussi le lait. Donc les aliments riches en eau vont permettre à l'organisme de se réhydrater, de combler toutes les pertes hydriques causées pendant la période du jeûne et également due à la canicule. Les aliments légèrement sucrés, comme les fruits et les jus de fruits, la datte, le miel et aussi la bouillie. Ces aliments riches en sucre vont permettre à l'organisme de réguler le taux de sucre dans le sang.
La disparition du président tchadien Idriss Déby laissera un grand vide pour le Sahel et risquerait de zapper l'élan stratégique du Niger en matière sécuritaire, déclare le chercheur Diko Abdraman. Selon le chercheur, les troupes tchadiennes pourraient se retirer du Sahel. Il est interrogé par notre correspondant à Zender, Mustapha Mamansani, et c'est dans la partie magazine.
C'est une fin tragique et c'est une perte pour le Tchad et pour l'Afrique, puisque Idriss Déby, dans la lutte contre le terrorisme, est un personnage assez remarquable qui mobilise ses forces pour la quiétude du Sahel. Et aujourd'hui, sa disparition peut être considérée comme étant une chute drastique de toutes les politiques sécuritaires au Sahel de manière globale.
Comment interpréter les conditions de sa mort?
Idriss Déby était omnubilé, trop passionné par la conquête d'un leadership, un leadership régional et international. Très malheureusement, ça lui a coûté la vie et je pense très bien que la fonction d'un chef de l'État ne doit pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et je pense qu'un chef d'État doit avoir quand même cette hauteur d'esprit qui va lui permettre de comprendre les implications qui sont liées non seulement à sa disparition, mais aussi aux éventuelles situations qui peuvent lui arriver, comme la maladie par exemple.
Quel vide laissera aujourd'hui le président tchadien Idriss Déby?
Déby, qu'on le veuille ou pas, est un personnage assez remarquable qui s'est véritablement investi dans la lutte contre le terrorisme et la sanctuarisation de l'espace, j'allais dire, sahélien. Sa mort veut dire un retrait plus ou moins passif de troupes tchadiennes qui aujourd'hui sont sur la zone de trois frontières et qui véritablement travaillent pour ramener la paix. Donc si aujourd'hui Déby disparaît, ça veut dire véritablement que le Tchad peut éventuellement envisager un retrait plus ou moins rapide de ces troupes sur les zones de trois frontières.
Comment comprendre la prise du pouvoir par son fils et la dissolution des institutions du Tchad?
Ce qui vient d'arriver, on peut le confondre à un coup d'État dans un deuil. À la limite, j'allais dire une révolution de palais, puisqu'il y a un dispositif démocratique qui prévoit aujourd'hui un mécanisme par lequel, lorsqu'un chef d'État disparaît dans des conditions de maladie ou, je sais pas moi, d'accident, qu'il y a un mécanisme assez bien encadré, prévu par le dispositif démocratique qui donne cette prérogative-là au président de l'Assemblée. Et aujourd'hui, on dit que l'Assemblée est dissoute, que le gouvernement est dissout, que toutes les institutions de la République tchadienne sont dissoutes. Ça veut dire véritablement, c'est un coup d'État. Donc, moi, je dis que c'est assez inédit et c'est assez exceptionnel. Cela s'est produit au Togo. Pour une deuxième fois, ça se reproduit ici.
Quelles conséquences aura cette mort sur le Niger?
La disparition d'Idriss Déby risquerait de frapper tous les lans stratégiques du Niger en matière de questions sécuritaires. Donc, ça veut dire véritablement que le Niger, aujourd'hui, est encore interpellé par rapport à la mobilisation supplémentaire de ses forces dans la lutte contre le terrorisme.
C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Michel Dédji vous présentera le forum sur les violences basées sur le genre en période de conflit et dans les situations d'urgence.
Bonsoir, grande sœur. Enfin, aujourd'hui, je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafissa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien...
Toi-même, tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais, attends, grande sœur, apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.